votre émission La Voix des immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Monica, je suis votre animatrice comme à l'habitude. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler des interventions policières. On va écouter ensemble deux reportages que j'ai trouvé bien intéressants sur, en fait, un premier reportage de France. Mais je trouvais que le parallèle se faisait bien pour ici également au Québec. Donc, sur la démocratie, en fait, et puis, en fait, sur les interventions de droit, puis, essentiellement, ce qu'on comprend, c'est qu'on se pose la question si les interventions policières respectent le principe démocratique, en fait, de l'état dans lequel on se trouve, en fait, l'idéologie démocratique. Et puis, également, un second reportage sur des policiers du SPVM qui ont été interviewés, puis on comprend mieux, en fait, davantage la réalité de leur travail. Puis finalement, ben, c'est pas nécessairement du travail facile. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On se quitte pour une brève petite pause et on se retrouve donc par la suite avec les manchettes. Et puis, la manchette, je n'ai pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, en fait, je voulais me concentrer, en fait, davantage sur les mesures, les nouvelles mesures du COVID, pas COVID-19, en fait, parce que le COVID-19 pour le variant Omicron. Puis voilà, donc, il y a des mesures qui vont rentrer en vigueur spécifiquement à partir du 26, en fait, davantage à partir du 26 décembre. Donc, voilà, on se quitte et on se retrouve dans quelques instants avec notre manchette du jour. Me revoilà au micro, donc concernant les mesures, j'ai en fait pour me connaître, pour savoir ce que le goût veut maintenant. J'ai consulté le site du gouvernement du Québec. J'ai tout simplement tapé mesures COVID-19 et puis il y a une page donc, sur les nouvelles mesures. Rapidement, elles sont prises par les priorités ministérielles. C'est un élément quand même intéressant à savoir. Les mesures ciblent certains secteurs d'activité et milieux à risque de transmission. Ces secteurs font l'objet de restrictions, d'interdictions de façon sélective. Également, donc, on dit qu'il est demandé d'éviter les contacts sociaux non nécessaires et puis les personnes qui ne respectent pas les consignes présentées dans cette section s'exposent à des rapports d'infraction ou des amendes. Pour connaître les mesures de façon plus spécifique, vous n'avez qu'à consulter la page, puis vous verrez. Donc, on parle de mesures pour les rassemblements dans les domiciles privés, pour les activités de sortie, les loisirs et le sport, l'éducation et les mariages, entreprises, le commerce boutique, les déplacements et voyages, services de garde, les CHSLD, les centres hospitaliers et organismes communautaires. Donc, voilà pour notre super manchette. Maintenant, donc, pour notre émission pour notre sujet du jour, donc les interventions policières, je disais qu'on allait écouter ensemble deux reportages bien intéressants. Mais en fait, en premier, je veux qu'on lise ensemble un article qui est paru dans la presse. Un article, j'ai pas le nom sous mes yeux, je vais tenter de le chercher rapidement. Mais en fait, on parle de on relate des événements survenus avec des policiers, dont des incidents, des jeunes qui ont été arrêtés, où on fait le lien avec la brutalité policière, mais également on parle, donc, à travers l'article, on va parler de brutalité policière, de profilage racial également, sujet bien intéressant. Et donc, le titre de l'article, exactement, c'est « Une année difficile pour les policiers ». Donc, un article qui est paru dans la presse le 21 décembre. Au début de l'article, ce qu'on dit, c'est que c'est Il y a plusieurs événements qui ont marqué, qui ont jeté un éclairage un peu plus flatteur sur la profession policière. En premier lieu, donc, on parle de Mamadi Farah Camara, qui a été faussement accusé de tentative de meurtre sur un policier à la suite d'une enquête bâclée menée dans l'empressement. Après 6 jours de prison, un monsieur a été relâché avec les excuses du directeur du service de police de la ville de Montréal et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a ordonné donc la tenue d'une enquête sur ce cafouillage. Mamadi Farah Camara a reçu le ménage de l'Assemblée nationale en avril, où en juillet, ses proches et lui-même ont tenté une poursuite de 1,2 million contre le SPVM et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, parce qu'il fait le lien avec un cas de profilage racial. Ensuite, il y a l'événement du jeune noir, donc à la fin novembre à Québec, qui est une arrestation musclée d'un jeune noir filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Puis voilà, puis l'événement donc, a déclenché une cascade de dénonciations et de diffusion de vidéos en quelques jours, montrant les policiers du service de la police de la ville de Québec, usant d'une force difficile à justifier. 5 policiers ont été suspendus, dont un qui est visé dans plusieurs de ces cas. Certains de ces incidents ont fait surface plusieurs semaines et même des mois après leur déroulement. Au-delà des enquêtes internes du SPVQ, donc le service de police de la ville de Québec, des enquêtes donc inévitables, le commissaire à la déontologie, le policier et le bureau des enquêtes indépendantes sont entrés en jeu. Tout indique que des accusations criminelles de voies de fait sont à prévoir dans certains cas. Donc, on parle d'événements qui ont marqué, mais on se rappelle surtout de l'événement de l'arrestation de Mamadi Farah Camara, dont on a traité à travers l'actualité. Et puis, donc, l'article, en fait, tente de faire le lien entre ces événements, puis, de façon globale, donc, les enjeux autour des interventions policières. Donc, Massimiliano Moulinet, professeur de criminologie à l'Université de Montréal, s'intéresse depuis longtemps aux questions de déontologie policière. Pour lui, donc, les événements de Québec s'inscrivent parmi ceux qui marquent l'imaginaire du public. Ce qu'il dit, c'est que donc, quand une intervention policière se passe mal, comme ils sont armés, donc les policiers, comme ils ont un pouvoir d'arrestation, qu'ils occupent une fonction très particulière dans la société avec les pouvoirs exclusifs qui leur sont associés, on parle de dérapages qui peuvent être relativement graves. On se rappelle donc uniquement de ces choses graves. De tels événements sont une atteinte à nos valeurs, selon M. Moulin. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal de voir un policier commettre une infraction, parce que les policiers sont censés être ceux qui nous protègent des criminels. Dans une vision des gentils et des méchants, la police fait partie des gentils, mais quand un de ces policiers se comporte comme un méchant, c'est comme si ça brisait fondamentalement donc, l'image donc, de la police dans l'imaginaire collectif, donc des personnes gentilles puis, donc, qui sont là pour faire respecter l'ordre. Donc, M. Miliani, à travers l'article, on comprend qu'on parle de plusieurs enjeux. Premier enjeu, donc, confiance et ambiguïté. Est-ce que les gestes répréhensibles commis par ces policiers entraînent une perte de confiance généralisée du public envers les forces de l'ordre? Ce que M. Moloney dit, c'est que il pense que ça n'affecte pas énormément la confiance que les citoyens ont envers la police. Il y a des gens qui aiment la police, qui sont en faveur, qui aiment beaucoup les policiers. Il y a des gens qui ne suivent, mais des gens qui n'aiment pas la police. Puis donc c'est un métier qui est ambigu parce que ce sont des gens qui sont censés nous protéger de la violence et qui sont eux-mêmes porteurs de violence. Donc, ils usent la force pour faire leur travail. Donc, juste pour résumer, parce que M. Moulin veut dire concrètement, donc, est-ce qu'il y a une perte de confiance lorsque l'on voit un policier, selon nous, donc, excusez l'offense, pas nécessairement. Donc, ça n'affecte pas énormément la confiance que les citoyens ont envers la police. Ensuite, il poursuit en disant que, en fait, il fait le lien donc, sur un des policiers qui a été arrêté, en fait, suspendu lors des événements de Québec en novembre dernier. Donc, précisément, il dit que. Il note qu'un des policiers parmi les cinq qui ont été suspendus semble démontrer un comportement extrêmement problématique. Et ce qui m'inquiète à travers tout ça, donc, on avait le policier qui apparemment avait été présent, impliqué dans plusieurs événements où il y avait un usage excessif de violence et que ce policier, donc, était violent, manifestait une violence probablement. qui dépassait les limites de son mandat de ses défaites, qui était hors contexte probablement. Voilà. Donc, qui est un des policiers qui était impliqué dans plusieurs événements. Puis, ce que M. Mouni dit, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que il est présent, il a été présent, mais c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tous les policiers qui sont impliqués dans des actes. On va dire par exemple d'usager abusif de la violence. Donc il y a le PC qui commet l'acte, mais il y a tous les collègues autour qui, en fait, restent silencieux. Et c'est ce que monsieur ne comprend pas. Donc ce qu'il dit précisément, c'est comment ça se fait que sur les vidéos, on ne voit pas un seul des collègues qui réagit et empêche l'individu de commettre ce qui est peut-être une infraction criminelle. C'est quand même un individu en train de commettre éventuellement des voies de fait. Qui est entouré de policiers qui ne réagissent pas à l'infraction qui est commise devant leurs yeux. Donc, voilà. Pour le chercheur, ces images illustrent des enjeux qui vont au-delà du bon ou du mauvais policier. Il y a quelque part dans l'organisation, dans la culture professionnelle, le système en lui-même, quelque chose qui fait en sorte que cet individu-là, donc le policier, cet individu-là, a besoin de 4 vidéos qui sortent dans les médias pour éventuellement être mis sous enquête. Et donc, et ça le fascine. Donc, ce qu'il dit, c'est que il y a un policier qui commet un acte, probablement une infraction, probablement criminelle, et puis finalement, les gens, ses collègues restent silencieux, et ils ne comprennent pas pourquoi ça insiste. On ne les dénonce pas sur le champ. Maintenant, au niveau de l'usage justifié ou non de la force. Donc, ce qu'il dit, l'usage d'une force excessive par un policier, même parfois, mais rarement à des accusations criminelles. Cela ne veut pas dire qu'elle est justifiée pour autant. Et là, c'est madame, en fait, Mariette Bilodeau qui parle, porte-parole du bureau du commissaire à la déontologie policière. L'emploi de la force plus grande que nécessaire, ce n'est pas nécessairement criminel. On s'entend que les policiers, c'est leur travail d'employer de la force. C'est la ligne qui parfois se met entre ce qui est criminel et ce qui n'est pas. Donc, il y a une ligne entre ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas. Les questions que l'on se pose, en fait, lorsque. Ce qu'on comprend, c'est lorsqu'on utilise des cas. On se pose la question aussi de l'usage excessif de la violence. Et donc, est-ce que cet emploi de la force était justifié dans les circonstances? Si la réponse est non, il y a de fortes chances que ça aille du côté criminel. La réponse peut être oui. Elle était justifiée, mais elle était excessive comparativement à la menace. Et là, à ce niveau, on est davantage dans un niveau là, de l'ordre de la déontologie. Donc, la ligne est mince et c'est pour ça que c'est important de faire des enquêtes. Elle ajoute que la diffusion d'images de policiers utilisant la force manque souvent de contexte. Parfois, on voit le geste à la télé et on se dit « ouf ». Et ensuite, on voit tout le contexte et on se dit « ok, ben, le policier finalement n'avait pas le choix ». Donc, voilà. Parfois, au contraire, on va regarder un événement, on va se dire qu'il y a eu effectivement usage excessif d'une violence. Donc, bon, tout dépend du contexte, en fait, c'est ce qu'on comprend. Maintenant, pour l'année se terminant, donc au 31 mars 2021, en fait, pour l'année se terminant au 31 mars 2021, 2407 membres ont été enregistrés par le commissaire. De ce nombre, les deux tiers ont été rejetés. 655 ont été traités en conciliation et 220 ont donné lieu à des enquêtes. À la fin du processus, 82 dossiers impliquant 156 policiers ont donné lieu à des accusations, à des citations devant le comité de déontologie. Donc, nous avons eu ensemble une première partie de l'article. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va écouter le reportage sur la question donc, de la démocratie. Donc, en fait, on a des soldes et des policiers qui sont là. Finalement, on se pose la question, est-ce que ben, finalement, l'intervention policière respecte le cadre la société démocratique dans laquelle on se trouve. Hein? Donc, c'est un reportage, là, je répète, de France. Donc, on parle de la réalité française, mais je trouve là, que le parallèle se fait très bien. Donc, on se pose la question, ben, est-ce qu'elle est ici, au Québec, est-ce que les interventions policières respectent les c'est ce qu'on on comprend à travers le reportage, les droits et libertés des citoyens. Voilà. Donc, un reportage de 32 minutes. En fait, c'est un reportage, vous allez le voir, de une heure quelques. Mais on va écouter 32 minutes du reportage. On se retrouve donc par la suite. Et puis, voilà, on poursuit l'émission. On va poursuivre en fait avec la seconde partie de l'article. Donc, voilà, on se retrouve dans à peu près.
Mais donc, comme on l'a vu, donc, à la fois des procédures judiciaires qui semblent ne pas aboutir ou mettre des dizaines d'années à aboutir, une police surprotégée qui semble avoir des moyens gigantesques pour opérer, une responsabilité de l'État qui semble quasiment ne jamais être mise en cause, ça dit quand même quelque chose de l'État de droit, et j'utilise ce terme avec des guillemets, dans lequel on est, c'est ce dont on va parler là dans la troisième partie, juste après le petit magnéto, s'il te plaît, Jordan.
Le projet de loi antiterroriste s'est donc présenté devant l'Assemblée nationale. Globalement, il vise à faire entrer dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence. Vous avez entendu Gérard Collomb à l'Assemblée. Ce projet de loi ne réduit pas nos libertés, mais il vise au contraire à les préserver. Le défenseur des droits que vous êtes est-il inquiet ce soir ?
Il faut bien dire que un projet comme celui qui est à l'examen constitue d'une part une menace sur nos droits parce que il remplace très souvent les faits par le soupçon. Deuxièmement, il constitue un risque pour le futur. Parce que je dis, si de tels textes, qui portent atteinte aux libertés, tombent entre les mains de gouvernements non démocratiques. Donc je dis, pensons à nos enfants.
Mais où sommes-nous, chers collègues ? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, hein, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous ? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Hein ? Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir. Vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. Alors, réveillez-vous.
Pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de doute. L'article 3 de la loi anticasseurs est contraire à la Constitution. Les sages écrivent que le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée.
On a quand même été mis en garde à vue depuis samedi midi et quart, émis un dépôt après, et on nous accuse de, pour justement un port sur nous d'un gilet jaune et d'un masque chirurgical, hein, on va appeler ça, puisque c'est des petits masques en papier, d'être un mouvement voulant créer des violences et créer de la casse. Voilà.
Il y a eu aujourd'hui 1385 interpellations. À l'heure où je vous parle, ce chiffre va encore progresser. Il y a eu 974 gardes à vue à l'heure où je vous parle et ce chiffre va encore progresser. C'est un niveau exceptionnel.
Nous avons pris un certain nombre de dispositions préventives. Nous cherchons absolument à éviter les violences et les heurts. Et donc sur la base de dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale, Il y a effectivement quelques interpellations qui ont été lancées par les procureurs.
Une démocratie sans contradiction, sans manifestation, sans expression des mécontentements, n'est plus une démocratie. On tombe rapidement dans une forme d'autoritarisme.
On l'a vu dans ce magnéto, on assiste depuis novembre 2015 et les attentats et la mise en place de l'état d'urgence à une forme de judiciarisation, ce qu'on appelle judiciarisation du maintien de l'ordre. Ainhoa Pasquale, vous vous battez, vous, depuis des années contre ces mesures répressives, ces lois liberticides. La première question que moi, je voulais vous poser, c'était déjà pourquoi ?
J'imagine qu'en tant qu'avocat, on a cette volonté de protéger les droits et libertés, hein, puisqu'on est on est les avocats, les défenseurs de personnes, mais avant ça, on est quand même les défenseurs des droits et libertés. Et je pense qu'on essaye dans ce contexte-là de préserver le maximum de liberté possible. Et quand on prend une loi, ça ne sera jamais pour protéger plus de liberté. Il n'y a jamais plus de liberté que quand il n'y a pas de loi en réalité. Hein. La loi sur l'état d'urgence est vraiment un bon révélateur, puisque finalement, lorsque la loi d'état d'urgence sur l'état d'urgence est votée en 2015 pour répondre aux attentats, pour protéger la sécurité, donc pour plus de liberté des autres individus qui ne sont pas donc les méchants terroristes, les ennemis hein, de l'État, on voit très rapidement que cette loi, elle va être utilisée, pardon, non pas contre des potentiels terroristes, mais contre des manifestants écologiques. Donc ça, c'est la première phase. On voit avec la COP21 qu'on peut assigner à résidence des militants écologistes. Et ça va se poursuivre, notamment dans la loi travail, puisque des dispositions de la loi relative à l'état d'urgence qui permettaient d'interdire de séjour des personnes sur certaines parties du département vont être utilisées dans le contexte de l'état d'urgence contre des manifestants pour la loi travail. Donc vous avez des dispositions initiales dirigés contre des potentiels terroristes qui vont être utilisés contre des manifestants. Vous avez à peu près la même chose avec avec le délit de groupement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui est un délit qui a été créé en 2010 sous le gouvernement Estrosi et qui visait à prévenir les guet-apens dans les banlieues et dans les cités. En fait, on voulait pouvoir avoir un outil, un instrument qui permette d'intervenir et d'arrêter les bandes de jeunes avant même qu'elles passent à l'action. Et ce délit-là va être ensuite utilisé dans le cadre de la loi travail, à la fin de la loi travail, ensuite en 2017 et donc maintenant de manière massive. Avec la loi anti-casseurs qui a été donc partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais pas complètement non plus. Vous avez aussi là un bon exemple hein, de loi de circonstance qui, à l'origine, était proposée pour faire face dans les manifestations loi travail contre l'extrême gauche, contre les casseurs, et qui finalement va se retrouver dans le cadre des manifestations gilets jaunes. Et donc là, c'est effectivement hein, c'est très pratique d'utiliser le terme d'ultra-jaune, puisque bon, finalement, on va utiliser une loi qui était contre les ultra-gauches, l'ultra-noir, contre les ultra-jaunes, et donc qui sont de nouveau là désignés comme des ennemis et qui sont donc pas tous les citoyens, enfin les citoyens on va dire normaux, admissibles, lambda. Et cette infusion on va dire du droit dans tout le milieu de la contestation sociale, il est vraiment, il est très révélateur donc de la régression de l'état de droit, puisqu'on voit que les lois, mais aussi le gouvernement, vont s'infiltrer vraiment dans tous les pans possible du mouvement social. Je vais reprendre un schéma un peu chronologique, si vous me permettez, qui part en fait de l'amont des manifestations et qui finit en aval à la fin. En amont des manifestations, ce qu'on constate, c'est que il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place. Donc, vous avez le préfet, notamment, qui va prendre des interdictions de manifester dans certaines villes. Alors, vous avez à Paris, hein, tous les samedis, une interdiction de manifester dans certains quartiers, certains arrondissements. Mais vous avez dans d'autres villes de France et dans certains départements de France, vous avez des préfets qui prennent chaque semaine aussi des arrêtés préfectoraux et qui interdisent finalement presque sur l'ensemble du territoire du département.
C'était le cas dans l'heure au moment
dans l'heure,
du grand
exactement,
débat.
22 arrêtés préfectoraux pris chaque semaine pour interdire les manifestations sur le territoire donc de 22 communes. Mmh. C'était les 22 plus grandes communes du département de l'Eure, donc en réalité, ça permettait d'interdire de manifester sur tout le territoire. En amont des manifestations, vous avez aussi le dispositif qui a été permis aussi, là encore, par une loi à l'origine antiterroriste, qui est la fouille généralisée. Mmh. Vous avez donc des réquisitions du procureur de la République qui permettent aux forces de l'ordre de fouiller quiconque dans un périmètre qu'il définit, mais qui est en général très, 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 très vaste. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui se retrouvent interpellées, parfois même
au péage,
à 100 km de la manifestation ou en descendant du bus, parce que sur le fondement de ces réquisitions, on va pouvoir les fouiller, regarder dans leur sac, dans leur véhicule, et tous les objets qu'on va pouvoir trouver, qu'on va pouvoir en fait leur reprocher comme étant une intention de se rendre à la manifestation, vont permettre leur interpellation, là encore, sur le fondement du délit de groupement. Donc, groupement.
On peut être interpellé simplement parce qu'on a un masque dans sa. Voilà. Dans son sac.
Exactement. Un gilet jaune, un masque papier, des lunettes de piscine sont tant d'éléments qui justifient un placement en garde à vue, donc pour un délit de groupement. Donc, sachant que donc, le groupement, c'est le groupement qui est formé même temporairement en vue de commettre des violences ou des dégradations. L'intention là-dedans, elle est très problématique. Hein. C'est un délit qui est vraiment qui relève de la justice préventive, voire même prédictive, hein, puisque on va vous imputer une intention de participer à un groupement, alors même que vous êtes à des kilomètres de la manifestation, alors même que vous n'êtes parfois, vous êtes parfois tout seul, hein, vous pouvez être poursuivi pour des faits de groupement en étant tout seul, mais on va vous imputer l'intention d'un passage à l'acte. Donc toujours en amont de ces manifestations, donc vous avez ces gardes à vue préventives, hein, qui ont d'ailleurs été même reconnues comme telles par le gouvernement, et donc vous avez des placements massifs en garde à vue de personnes qui ont en fait un seul intérêt, c'est de les écarter de la manifestation et évidemment de les intimider et de les dissuader de se rendre en manifestation. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que nous allons voir en garde à vue qui nous disent « Je vous jure que c'était la dernière fois que j'allais en manifestation, je n'y retournerai pas ». Donc vraiment, voilà, ils vous prennent ça en plus comme parfois un cadeau qu'il leur est fait de ne pas être poursuivi. Mais enfin, tout ça pour dire que…
– intimidation, en tout cas, incontestable.
– Voilà, et donc vous avez en plus de ça, donc ces placements en garde à vue massifs qui se comptent par milliers de personnes, donc qui ont été placées en garde à vue pour des faits de participation à un groupement. Vous avez une circulaire du procureur de la République l'année dernière qui avait été rendue publique par le Canard enchaîné, dans lesquelles… Instruction était donnée au commissariat, donc aux policiers, de maintenir les personnes en garde à vue, même si rien ne pouvait leur être reproché, au moins pendant le temps de la manifestation, de les relâcher éventuellement le dimanche, voire le lundi matin, pour être sûr qu'elles ne retournent pas dans la manifestation. Ça, c'est vraiment tout le dispositif qui s'est mis en amont. Vous avez aussi la loi anti-casseurs qui a permis d'augmenter le prix de la contravention en cas de participation à une manifestation interdite. Hein, tout ça, c'est aussi ce sont aussi des mécanismes qui vise donc à dissuader les gens d'aller en manifestation. Quand on sait que les gilets jaunes se battent pour plus de pouvoir d'achat, c'est vraiment très cynique d'augmenter le tarif, on va dire, de la contravention. Donc ensuite, vous avez, on en a parlé plus longuement pendant l'émission, donc pendant le temps de la manifestation, vous avez là donc la mise en place de l'utilisation des armes, les interpellations massives, le fait de blesser les gens, évidemment, là encore, pour les dissuader, pour les terroriser, hein, en réalité, et pour éviter qu'elles retournent en manifestation. Et ensuite,
il y a les condamnations.
Vous avez effectivement, donc en aval de ça, vous avez les condamnations et tout le processus judiciaire qui se met en marche. Ce délit de groupement, il est fabuleux pour le gouvernement, et ensuite il est très bien utilisé comme tel par les parquetiers, parce que vraiment il permet de faire entrer dans le spectre du délit tout un tas de profils et tout un tas de comportements qui en réalité ne sont pas délictuels, enfin en tout cas où il n'y a aucune intention de commettre des délits. Et on a constaté récemment une ultime dérive, on va dire, du dispositif légal qui est en vigueur, une utilisation massive, un recours massif au rappel à la loi sous conditions. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont être placés en garde à vue pendant 24 voire 48 heures, à qui en réalité on n'a rien à reprocher, le dossier est vide, mais ils vont quand même, à l'issue des 48 heures, être déférés, donc ça veut dire qu'ils vont être amenés dans un tribunal pour être présentés à un juge, à un procureur, qui va leur notifier un rappel à la loi. Et donc le rappel à la loi, c'est quoi? C'est de dire, bon ben voilà, en fait, on vous fait presque une fleur, on ne vous poursuit pas, mais en fait on ne vous poursuit pas parce que le dossier est vide. Si on pouvait vous poursuivre, évidemment qu'on le ferait. On ne vous poursuit pas, donc prenez ça comme un cadeau qu'on vous fait. Par contre, on va vous mettre des conditions. Et dans ces conditions-là, qui ont été rendues possibles aussi par la dernière réforme législative de 2019, vous avez une interdiction de Paris, par exemple, pendant 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an.
Qui revient en fait à une interdiction de manifester.
Et également, vous avez des interdictions de manifester qui sont prononcées. Donc, vous avez des gens qui sortent de, d'une privation de liberté de parfois donc, jusqu'à 60 heures avec une interdiction de manifester ou de se rendre à Paris et qui ne peuvent même pas contester parce que les rappels à la loi ne sont pas des procès en tant que tels, des condamnations en tant que telles. Donc, elles ne peuvent pas être contestées.
Et ce sont des personnes qui n'ont rien fait.
Et ce sont des personnes à qui rien n'est reproché, puisque sinon, elles auraient été emmenées devant un tribunal, ça ne fait aucun doute.
Mais Attac, par exemple, avait dénoncé ça, et ils avaient montré que leurs militants, quand ils avaient collé des autocollants sur une banque, ils s'étaient pris un rappel à la loi pour dégradation de biens publics, ce qui fait que s'ils se retrouvent à être amenés à coller une affiche ou à mettre un autocollant quelque part, ils peuvent avoir de vrais ennuis judiciaires, ce qui fait qu'ils ont des militants qui ne vont plus pouvoir... entre guillemets, agir comme des militants. Quoi.
Alors, on n'incite personne à commettre des délits et à se mettre en contravention avec, avec les dispositions législatives, mais nous serions vraiment, nous, en tant qu'avocats, très intéressés par, pour voir comment, dans les faits matériellement, se traduiraient des poursuites pour des gens qui n'auraient pas respecté leur rappel à la loi, parce que ça pose vraiment des questions qui sont fondamentales.
Et, combien de personnes, quand on parle, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes
Alors, je vais vous donner juste l'exemple du week-end dernier, donc anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Sur l'ensemble des personnes qui ont été amenées donc, au tribunal à l'issue d'une garde à vue, près de 50% de ces personnes-là ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Ça veut dire que sur 50% des gens qui n'ont pas été relâchés pendant la garde à vue, donc qui ont été amenés jusque devant le tribunal, vous avez en réalité 50% de ces gens-là à qui il n'y a même pas suffisamment d'éléments pour les emmener devant un juge et pour qu'elles soient jugées. Ça en dit beaucoup sur les motifs qui justifient les interpellations et sur vraiment la matérialité des faits qui sont reprochés aux gens.
Et moi, je voulais aussi vous interroger sur deux autres types d'abus que j'ai pu voir, notamment quelqu'un sur Facebook qui avait fait une publication et qui s'est retrouvé lui aussi condamné au tribunal, convoqué au tribunal, donc parce qu'il avait appelé à bloquer une raffinerie ou un truc comme ça. Donc on voit que même sur les réseaux sociaux, ils vont chercher des éléments. Et je voulais aussi parler de la judiciarisation, ou en tout cas de la répression judiciaire qu'il y a contre les journalistes, parce que il y a un certain nombre de journalistes qui ont porté des plaintes pour violence, etc., dont il n'y a pas eu de suite. Il y a des journalistes, je m'en souviens bien, qui avaient filmé un portrait de Macron qui était en train d'être brûlé et qui se sont retrouvés convoqués au tribunal pour apologie de la violence ou des choses comme ça. Donc, pareil, est-ce que vous avez été amené à suivre ce genre d'affaires? Est-ce que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit? Parce que je vois beaucoup de journalistes indépendants, moi, via Twitter, par exemple, qui se plaignent de leur traitement, mais en fait, j'ai pas beaucoup vu ça dans les médias, et je me demande quelle est la proportion aussi de ce genre de situation, et est-ce que ces journalistes peuvent vraiment être ennuyés au tribunal pour apologie? Est-ce que cette affaire, c'est juste de l'intimidation, ou est-ce que ça peut être... juridiquement qualifiable?
Alors, je pense qu'il y a tout un débat qui a eu lieu l'année dernière sur la qualité vraiment de journaliste qui a été assez importante, où en fait on a quand même constaté que il y avait une distinction qui était faite entre les vrais journalistes et les faux journalistes, et avec toujours une tendance des tribunaux à dire que ce n'est pas le journaliste qui est jugé, mais la personne, bien l'individu qui est derrière. Donc, comme ça a notamment été le cas pour Gaspard Glantz et le fameux doigt d'honneur, qui est vraiment aussi un procès qui est assez révélateur. En tout cas, ce qui leur a permis, c'est qu'il ait le statut de journaliste, qu'il lui soit reconnu, en tout cas par l'ordre judiciaire. Donc ça, c'était déjà un bon point. Mais sur les journalistes, de manière plus générale, outre les blessures dont ils ont été victimes, j'ai l'impression que ce qui est très problématique, c'est qu'en fait, on les empêche surtout d'exercer en les tenant à distance ou parfois en les privant de leur matériel, en dégradant leurs appareils photo, leurs caméras. Après, l'exemple que vous citez du journaliste qui a été poursuivi est emblématique, mais je ne pense pas qu'il soit, en tout cas, transposable pour l'instant au reste de la profession. Voilà, donc nous, on tant mieux, si les journalistes ne sont pas encore poursuivis devant les tribunaux. Nous, on trouve qu'ils font déjà l'objet de beaucoup trop de restrictions en amont.
Comment enlève leur protection, comment ils peuvent faire leur métier décemment, etc., sur des actes où on voit qu'il y a de telles violences. Donc effectivement, il y a une volonté quand même manifeste d'empêcher notamment les médias indépendants et les journalistes indépendants, même pas les médias, certains journalistes sont totalement indépendants, de faire leur métier et de rendre compte de ces violences.
De la même manière que sur les armes, elles ont été d'abord testées sur des petites catégories de population, elles ont été généralisées. Là, on a un État et une justice qui va tester. En arrêtant Gaspard Glantz, c'est clairement un test. Il voulait voir si ça passait d'arrêter un journaliste indépendant, de le mettre en garde à vue et tester peut-être un petit peu le corporatisme de la profession. Est-ce qu'il va être défendu? Est-ce qu'il va être lâché? S'il est lâché, parce que c'est fascinant cette profession de journaliste qui est toujours très corporatiste pour absolument tout, mais quand des journalistes indépendants sont blessés en manif ou arrêtés, là, on n'entend pas grand monde. Et on a un État qui teste des choses. Même un petit peu burlesque, parce que ça intéressera peut-être Maître Pascual, parce qu'on a une affaire de manifestante qui préparait un homard en papier mâché à Nantes,
oui,
avant une manifestation. Et donc, il y a eu une opération quasiment antiterroriste, avec une descente de policiers cagoulés, de la BRI, de là-bas, qui ont encerclé un bâtiment, qui ont saisi le homard en papier mâché, qui ont arrêté ces personnes-là pour association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, plus de 50 heures de cellules, déferment, etc. Donc aujourd'hui, à Nantes, on a une instruction, une enquête qui est ouverte pour groupement en vue de et association de malfaiteurs, il y a les deux qualifications, pour un homard. Aujourd'hui, on a un homard en papier mâché qui est dans les scellés de la justice nantaise. Donc on voit qu'on a un État qui teste jusqu'où il peut aller, vraiment le plus loin possible dans les arrestations effectivement préventives, dans tout ça. Il y a des arrestations pour une préparation de banderole, pour un message Facebook. Enfin, il y a absolument tout, il frappe dans tous les sens, militairement et juridiquement, pour voir jusqu'où ils peuvent aller, réellement.
Oui, donc,
donc la limite, c'est l'opinion publique, c'est les citoyens, c'est le rapport de force qu'il a pose.
On voit bien que Macron, il va jusqu'où il peut aller, depuis le début.
Il n'y a pas vraiment de limite en réalité qui persiste, puisque j'ai vu dans les tribunaux des types de raisonnements proférés par des juges, des magistrats, que moi j'ai trouvé profondément choquants et que je n'avais jamais vu. Je ne suis pas journaliste depuis si longtemps que ça, mais ça fait quand même pas loin de 10 ans que je vais dans les tribunaux, je n'avais jamais vu un truc pareil. J'ai vu un magistrat dire à un gilet jaune « Mais monsieur, vous saviez que ça allait être violent, pourquoi vous êtes venu ?» Vous avez le droit de manifester, pas de problème, hein. C'est pas ça qui est en cause, monsieur. Vous avez complètement le droit de manifester, mais vous saviez que ça allait être violent. Mais alors, pourquoi vous êtes venu? C'est que vous vouliez en découdre. Et en fait, le raisonnement comme ça, de proche en proche, il y a eu un glissement. Et j'ai entendu ce raisonnement-là toute la journée.
Mais c'est même ce
il s'agissait de comparution immédiate de gilets jaunes. Donc, c'est hallucinant d'entendre dans la bouche d'un magistrat, dont le métier est de garantir les libertés fondamentales quand même, au-delà du fait que son métier est d'appliquer la loi, c'est sa fonction. En l'occurrence, là, c'est vous avez le droit de manifester, mais vous aviez du matériel de protection qui n'est plus du matériel de protection en réalité, mais du matériel qui est considéré comme une volonté au mieux d'être brutal, violent avec les forces de police, au pire une intention carrément homicide. Moi j'ai vu des gens avoir dans leur sac des éléments pour se constituer un bouclier. On leur a dit dans le tribunal, le parquet comme le président du tribunal leur a dit, mais vous vouliez donc tuer. Vous étiez là pour ça. Donc vraiment, on a affaire à des types de raisonnements qui sont hyper pervers, dans lesquels le droit de manifester est soi-disant garanti et pas en cause, mais la pratique de la manifestation, elle, en fait, elle n'est plus du tout une pratique de manifestation, mais elle est une pratique de subversion violente, brutale, qui est faite pour tuer, pour casser, pour détruire. Et donc ça, il faut que ce soit réprimé. Donc il y a une espèce de renversement de ce qu'est l'acte de manifester.
Alors que la peur, en fait, qui pose la question démocratique. Enfin, c'est on dresse un tableau très sombre depuis tout à l'heure. C'est terrible, mais c'est moi, c'était une des questions en fait que je voulais vous poser à la fin de cette émission. C'est sur tout ça pose véritablement la question de sommes-nous encore en démocratie après tout ce qu'on vient de d'énumérer. Si oui, si non, de toute façon, quelles sont les solutions aujourd'hui pour faire en sorte que les choses s'améliorent et que on ne continue pas à tenir les mêmes constats et le même tableau noir dans 5 ans, dans 10 ans.
Enfin, c'est désespérant, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais les solutions, je ne sais pas. On n'est pas prescripteur. Moi, je suis pas pharmacienne, donc je vais pas vous faire une liste. Mais il y a aussi quelque chose qui est important à tout point de vue, c'est de refuser de se laisser dire que cette situation est normale. Elle ne l'est ni pour les journalistes, ni pour les gilets jaunes, ni pour les professionnels de santé qui reçoivent tous les samedis des personnes qui sont blessées gravement et qui... moi, j'ai une pensée pour eux parce qu'ils sont également en lutte depuis plusieurs mois maintenant et face à une même surdité gouvernementale qui est extrêmement violente aussi. Il y a tous les fonctionnaires qui ne sont pas nécessairement des policiers mais qui sont confrontés aussi à une certaine répression. Enfin, tout ceci...
correspond quand même à une partie importante du corps social qui est en lutte et qui est à peu près inaudible. Donc il faut ouvrir ses oreilles, déjà, ça, c'est la première des choses à faire. Faire attention au langage qu'on utilise, soutenir aussi, il y a des manifestations régulièrement, si on cherche quelque chose à faire. Voilà, il y a des choses sur lesquelles les citoyens soutiennent aussi les gens qui sont confrontés à la répression. Donc, après, il est pas nécessaire non plus de se mettre en première ligne. Les blessés qui, moi, j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu discuter, leur combat essentiel, c'est de faire admettre qu'il y a un problème. Voilà, peut-être on peut partir de là. Et une fois qu'on aura discuté de ça, on pourra évoluer sur d'autres choses. En réalité, c'est pareil pour le droit d'avorter. C'est exactement la même situation. Vous avez le droit d'avorter dans la loi. Si l'avortement est à 10 000 euros, qu'il y a des files d'attente de fous sur les cliniques d'avortement, que en plus vous risquez une répression judiciaire pour ça, allez-vous le faire? Bien sûr, dans la loi, votre droit est garanti. Mais le ferez-vous? Donc la démocratie, c'est quand le droit existe et les conditions d'exercice de ce droit existent également. Pour les journalistes, ça n'est plus le cas depuis un certain temps, et pas seulement pour les journalistes indépendants. Pour les journalistes de la presse non indépendante, c'est également problématique.
Je pense qu'on pourrait juste rajouter sur les journalistes, puisque vous posiez la question de la répression à laquelle ils font face et des tentatives d'intimidation. Je voulais vraiment juste rappeler qu'il y en a quand même certains qui ont été convoqués devant la DGSI récemment pour des enquêtes qu'ils avaient menées. Et ça, je pense que c'est presque encore plus terrifiant qu'un procès devant un tribunal qui va être public, où du coup, il va pouvoir aussi y avoir un dialogue autour, et puis ça va pouvoir être
documenté. Avec Disclose, il y a eu Ariane Chemin sur l'affaire Benalla, il y a eu plusieurs convocations à la DGSI ces derniers mois.
Ce sont des tentatives d'intimidation je pense que c'est beaucoup plus révélateur du recul de la liberté d'informer que les exemples, certes navrants, que vous avez cités, mais de poursuites devant les tribunaux judiciaires des journalistes, comme ça a été notamment aussi le cas de Gaspard Glanz.
Alors, est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'on est en état de droit? C'est une vraie question. À quel moment on place le curseur? À quel moment il y a des résistants qui rentrent en lutte, plus ou moins frontale? À quel moment on se dit que c'est insupportable? Alors, le mot démocratie, le mot état de droit, quand même, on peut se dire que c'est quand même une fiction. En France, l'état de droit, il a toujours été plus ou moins suspendu. On parlait tout à l'heure des banlieues, on parlait dans les colonies, en Algérie. L'état de droit, c'est un dispositif qui s'exerce et qui peut être arrêté, suspendu, au gré des crises, des conflits, de l'inquiétude des puissants. On l'a vu avec l'état d'urgence, tout récemment, qui maintenant s'éternise. Est-ce qu'on voit cette question-là? Et souvent, sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes disent « on est en dictature ». Dictature, Macron est un dictateur, etc. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une sorte de régime hybride. On n'est plus vraiment en démocratie. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure le montre. Tous les voyants sont au rouge, objectivement. Mais on n'est pas non plus en dictature. On est sur quelque chose d'hybride et aujourd'hui, on a des régimes comme ça qui sont un peu insaisissables. Avec Donald Trump.
Avec Bolsonaro.
Bolsonaro. On a une espèce d'international, plus ou moins néofasciste, qui s'installe en Italie, au Brésil. On a des régimes comme celui d'Erdogan. Erdogan qui est réélu, mais qui mène...
Orban aussi.
Orban, Poutine, etc. On est vraiment dans le règne du régime hybride sur fond de crise totale, de confiance, de crise écologique. Les États vont se militariser au fur et à mesure que la crise écologique va s'aggraver. Donc on est réellement dans une période d'incertitude où on sent que ça peut basculer. L'exemple du Chili est assez intéressant. Grande démocratie d'Amérique latine, il a suffi de 3 jours de soulèvement pour que l'armée retourne dans les rues et que ce soit, qu'il y ait même un retour aux images de Pinochet, mais il a suffi de 3 jours pour une grande démocratie. Et il a suffi de 2 ou 3 actes de gilets jaunes pour qu'on envoie des blindés sur les Champs-Élysées et qu'on envoie des brigades de volontaires tirer des milliers de balles en caoutchouc sur des manifestants.
Donc, vous parliez d'écouter tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, il y a cette espèce de... Il y a presque une barrière cognitive, en fait, je pense, pour la plupart des gens, à se dire... Mais non, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en démocratie.
C'est pour ça que la bataille, elle est informationnelle.
Mais pour
répondre sur les perspectives, parce que merci de poser la question, ça me semble très important, parce que se contenter de faire des constats noirs et désespérants,
c'est important,
mais c'est insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme perspective? Il y en a plein. En réalité, il y en a plein. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Avec l'Assemblée des blessés, par exemple, on a essayé de viser les usines qui fabriquent ces choses-là. Alors la répression, c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est impalpable, qui est inatteignable. En réalité, il y a des infrastructures, il y a des usines qui fabriquent en France ces armes-là. Il y en a notamment dans le Finistère, il y en a à côté de Toulouse. Il y a tout un tas d'infrastructures militaro-policières en France et c'est très facile. On l'a vu sur les sujets de la sensibilité des sites Céveso, ce sont des sites Céveso, il suffit d'aller autour pour stopper la production de ces armes-là. Et donc, il serait particulièrement pertinent, en période de grand mouvement social...
Ces armes-là qui sont ensuite distribuées aussi bien pour les manifestations que pour les zones de guerre.
Qui sont massivement exportées. La France exporte, par exemple, typiquement sur cette grenade-là qui est fabriquée dans le Finistère, Nobel Sécurité, 80% de la production part à l'exportation. D'accord. Donc elle est tirée où ? Dans le monde arabe, en Amérique latine, dans des pays d'Afrique. 80% de la production. Donc il serait particulièrement pertinent, par exemple, de s'emparer de ces questions-là directement. On peut, aujourd'hui, bloquer une usine d'armement. On peut, aujourd'hui, faire se rencontrer des personnes blessées, des personnes qui ont eu un vécu avec la justice, et briser cette atomisation. C'est essentiel. Et donc refuser ce chantage à la terreur et à la peur. On peut, aujourd'hui, désobéir le plus possible, partout. Et on l'a vu, le gouvernement a perdu pied au début du mois de décembre dernier parce qu'il y avait des élections simultanées partout. Et ça, c'est ce qui peut se produire en décembre 2019. Avec la grève du 5 décembre, s'il y a des actions, même minimes, même des petites choses, même des occupations de ronds-points, même des blocages, même des petites manifestations, partout simultanément, leur état policier ne pourra pas réprimer tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme perspective ? On a ce qui se passe partout dans le monde. On a des régimes qui sont plus durs que l'État français, même si c'est dur ce qui se passe en ce moment, mais on a un moment où en Irak, ou au Liban, ou au Chili, les gens ils disent « on n'a plus peur ». C'est un des slogans du Chili. Ils nous ont tout volé, même la peur. Et à un moment donné, quand il y a ce point de bascule où les gens arrêtent d'avoir peur, parce qu'on vit depuis un an sous une chape de plomb de terreur en France, et à un moment donné, il va falloir qu'on arrête tous ensemble d'avoir peur. Et là, qu'on inverse, que peut-être la peur change de camp. Ouais. Ça, c'est une des premières perspectives qui va se poser là, demain, dans quelques jours.
Mais qui a eu lieu d'ailleurs. Qui a eu lieu au moment de en décembre, à plusieurs moments, le gouvernement a eu très peur.
Ce qui est très difficile du point de vue juridique, c'est qu'il y a un effet cliqué qui est en marche à chaque fois qu'il y a une nouvelle.
Le revoilé au micro, donc le titre du documentaire, le titre exact est « Violence policière, démocratie en danger », reportage de 2019, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Maintenant, concernant le nombre de plaintes, je voulais vous mentionner que tous les ans, le nombre de plaintes en déontologie augmente. Puis voilà, donc on tente de comprendre pourquoi. Madame Guilbeault, qui est la porte-parole, je pense, qui est la ministre de la Sécurité publique, en fait, Madame Guilbeault, a déposé un projet de loi à la fin de 2021 dans lequel elle veut, donc, en fait, ce que je dis, c'est qu'on veut reconquérir la confiance publique. Les éléments cruciaux de la réforme, on retrouve notamment des pouvoirs élargis, l'intervention du bureau, des enquêtes indépendantes, donc, qu'on appelle la police des polices. Également, donc, ce qu'on dit, c'est que tout geste de nature potentiellement criminel posé par un policier sera automatiquement référé, donc, au bureau des enquêtes indépendantes. La loi obligerait également, dorénavant, donc, au BEI à rendre ce rapport public, ce qui est toujours refusé, ce qui a toujours été refusé jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. La ministre s'est également octroyé le pouvoir d'ordonner au corps policier de suivre certaines directives. Jusqu'ici, une directive de la ministre avait la portée d'une recommandation plutôt que d'une obligation. Donc, Mme Guilbeault a d'ailleurs donné l'exemple de l'interpellation aléatoire qui sont souvent montrées du doigt comme donnant lieu à du profilage racial, comme pouvant donner lieu à une directive de sa part. Bon. Bref, concernant le profilage racial, en fait, je trouvais intéressant également de mentionner que M. Moulonnet, donc le professeur en criminologie, il dit que l'existence du profilage racial par le corps policier ne fait aucun doute. Il s'agit selon lui d'un problème systémique. Les études montrent que la disparité de traitement n'est pas un problème des individus qui abusent de leur pouvoir, c'est le système, la manière dont le système fonctionne qui fait en sorte qu'il y a du profilage. Donc, il vise, ce profilage vise certains groupes plutôt que d'autres. Ce n'est évidemment pas un racisme systémique explicite, formalisé dans des règlements ou dans des politiques. C'est clairement un problème d'individu, un problème de système, la manière que ben, notre société au Québec conçoit donc les personnes, par exemple, de race noire ou des blancs qui les blancs à faible revenu. Revenant à la question, donc c'est intéressant, donc on parle uniquement de moi, donc revenant à la question donc, de la confiance des citoyens, il fait valoir que c'est un peu une confiance homogène à travers la population. Il y a des parties de la population qui ont beaucoup moins de confiance envers la police, en fait, que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que lorsque vous appartenez à un groupe qui vous est ben, victime de racisme systémique, ben, lorsque l'individu se fait interpeller, il a beaucoup moins, souvent, en fait, il a beaucoup moins tendance à considérer l'intervention comme légitime. C'est une problématique en soi parce que ben, le citoyen va réagir, il donc va refuser d'obéir. Et à partir du moment donc il refuse d'obéir, ben là, ça devient problématique. L'intervention facilement donc va dégénérer. Donc c'est à ce moment que se déclenche donc le cercle vicieux. Voilà, ce qu'il dit, c'est que la pire chose que vous pouvez faire envers un policier lorsqu'il vous interpelle ou qu'il vient vous voir, c'est de marquer le respect envers son autorité. Donc, en gros, voilà. Ouais, donc, vous êtes black. Un policier vous interpelle, faut rester poli. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et, donc, on a lu ensemble la dernière partie de l'article. Maintenant, je lis parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que c'est pertinent, en fait, parce que ça nous permet de connaître, de mieux connaître la réalité du travail policier. Donc, on va écouter, il ne reste pas beaucoup de temps, donc peut-être 5 minutes là, sur vidéo, sur le reportage, que vous pourrez aller consulter par la suite sur YouTube. Donc, le polita, le reportage, en fait, ça s'appelle Web, Web, c'est un reportage web de, voilà, le nom m'échappe encore une fois, là. Je l'avais sous les yeux tantôt, mais bref, donc on écoute ensemble le reportage, je vous donnerai le titre par la suite.
Le 23, vous approchez un 445 au coin de Smith et Peel pour un suspect connu de vol qui se promène avec une mallette de cuir sur Peel en direction sud.
On se trouve à être dans le 22. C'est une partie Hochelaga-Maisonneuve, l'autre partie se trouve à être le centre-ville, donc Ville-Marie, avec on a comme la portion village gay un petit peu de Ville-Marie à l'est de Hammer, c'est pas mal. J'ai commencé à 24. Je me trouve jeune, c'est sûr, mais le métier de policier, justement, il te fait voir un petit peu plus de choses, puis t'arrives à te placer dans la peau des gens un petit peu plus vite aussi. Déjà, la confiance qu'on dégage avec les gens, ils peuvent le savoir, ils peuvent le sentir. Je me souviens, je pense que c'était à ma deuxième ou troisième journée, puis il y a un itinérant comme ça qui fait du squeegee, puis on sort, puis il me regarde, il dit « t'es nouveau, toi ». Ça me saisit juste qu'il sache que j'étais nouveau, tu sais. Je me demandais pourquoi, mais ça se dégage. Mais ça s'acquiert au fil des ans, au fil des mois aussi.
Pour aller plus vite, pour ouais.
La situation que jusqu'à maintenant j'ai eu le plus de difficultés, du moins que j'appréhendais le plus à faire, c'est une annonce de décès. Tu sais, c'est carrément de rentrer dans la vie de quelqu'un puis d'y annoncer une des plus grosses nouvelles qu'il va jamais entendre de sa vie. C'est tellement désagréable puis dur à faire, mais mon chiffre commence, tu sais. J'ai toute une journée à continuer en repensant juste à la voix du père, tu sais, quand il pleurait. Ça, j'ai trouvé ça lourd un petit peu. J'ai trouvé ça spécial.
Juste pour signaler que je m'approchais à madame. Donc,
la vision que les gens ont de la police, l'image qu'ils ont négative, du moins des personnes qui la voient négativement, c'est le seul côté négatif peut-être du travail. C'est que je recherche pas nécessairement d'être apprécié dans mon travail puis d'avoir des médailles puis tout ça, mais que les gens toujours partent à la négative envers toi, du moins la plupart des gens, ben disons que c'est ceux qui ressortent, que tu remarques, qui viennent toujours plus te chercher, tu sais. Mais c'est vraiment ça qui est dur à gérer, c'est la pression de ne pas pouvoir se tromper avec toute l'attention qu'on a au niveau média, au niveau, tu sais, les gens alentour. Il n'y a plus personne d'indifférent. Quand ils voient les policiers là, travailler, ils vont vite porter attention. Il y a eu un événement avec un itinérant récemment, un policier qui a eu affaire avec lui. Finalement, ça l'a fait les manchettes, tout ça. Je peux dire, le lendemain, j'intervenais avec Bando qu'on a vu justement tantôt. tout le monde me regardait comme si j'allais l'arrêter. Tu sais, quand j'étais un peu relation d'aide, puis je parlais, je prenais de ses nouvelles, mais tout le monde me catégorisait comme « Ah, il est vilain, tu sais, il va l'arrêter. » S'ils pouvaient, eux, se mettre à ma place aussi, ils comprendraient que mon approche est rarement de juste arrêter le monde. Les arrestations, là, c'est un petit pourcentage de mon travail. C'est vraiment du travail social de plombier de ville, je dirais, que je fais, là.
Madame,
c'est un agent qui a pris
pour le CF Douglas.
Et c'est une
dame qui voit de la constellation et du complot.
Quel âge? 90.
Vous
allez les
réduire
parce que notre
l'entendre
ne fonctionne pas.
Captain, monsieur, les dernières informations que j'ai,
pour ce qui est
de l'appel,
c'était... Le 22-2. Gabriel Rouen. Un homme intox en convulsion. Ça se passe dans le parc. On a une vingtaine de personnes autour de lui. Pour le 21-3 en approche également.
Respect, mais il y a de l'écume qui coule. Ben, en tout cas, il crache pas mal, puis il y a des convulsions. Tout le monde le connaît. Il a consommé pas mal. Tout le monde dit juste de l'alcool. On va savoir. Ils ne savent pas depuis combien de temps, ils ne savent pas combien. On a essayé de tasser tout le monde. Il y en a qui ne voulaient pas se tasser. Puis tout le monde disait être son ami. Personne ne connaissait son nom. Personne ne connaissait qu'est-ce qu'il avait fait ce soir. Fait que pour nous, ça nous sonne des cloches comme quoi ce monde-là n'a pas d'affaires là. Fait qu'il a fallu qu'on appelle un petit peu de coop pour venir faire un cercle, pour se sécuriser là-dedans. Autant les ambulanciers, parce que moi, j'étais avec la victime à terre, puis il y avait des gens dans mon dos, des fois, qui passaient. Fred était tout seul, là, il y avait 20 personnes, il n'y avait rien à faire, tu sais. Ouais. Dans l'ambulance, on était deux policiers pour essayer de le maintenir comme ça, parce qu'il bougeait beaucoup, puis il nuisait au travail de l'ambulancière, qui n'arrivait pas à l'attacher ou à placer les électrodes, puis à prendre ses signes vitaux. Fait qu'il a fallu qu'on soit deux pour l'escorter jusqu'à l'hôpital.
Oh boy. Ça, notre day-to-day, l'alcool, les drogues et toutes les incivilités, les manquements, toutes les problématiques qui viennent avec. Ça, c'est continu.
Écoutez, c'est juste pour vous dire que Steve était trouvé presque semi-conscient dans un parc là, en convulsion. Il y avait de l'écume qui sortait de la bouche. Avec une gang de jeunes, là, il aurait dit qu'il aurait consommé beaucoup d'alcool, peut-être de la drogue aussi. Ça, c'est le numéro de la résidence ou le téléphone cellulaire? OK. Bon, ben parfait. Ben écoutez, je suis pas sûr que je suis en mesure de lui faire comprendre ça en ce moment, mais j'imagine qu'il va vous contacter. Ses parents ont décidé de pas venir à l'instant. Tu sais, le jeune, malheureusement, il a un passé. Il a 16 ans, puis il a déjà un bon passé. Tu sais, il est souvent accusé pour des voies de fait contre la police, des vols, une introduction par infraction. Il y a beaucoup de conditions qui brisent. Fait que je pense que ses parents, ils savaient ça, parce que lorsque je les ai appelés, ils m'ont tout de suite dit « Ah, attends un petit peu, va te passer son père, là. » Puis il avait l'air de déjà s'attendre à ce que la police les appelle. Ça ne les surprenait pas, puis ils ne s'inquiétaient pas.
Me revoilà au micro. Donc, le titre exact du reportage, là, je l'ai encore perdu, mais je le retrouve dans quelques instants. Je voulais juste, en fait, en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Et vous rappeler que si vous buvez, il faut éviter de prendre le volant. Je voulais également vous mentionner que l'opération Nuit Rouge a annoncé, donc, c'était le 21 décembre, qu'elle mettait immédiatement un terme à sa campagne de raccompagnement, donc, du COVID-19. Donc, si vous avez l'intention de boire, assurez-vous d'avoir une personne là, qui peut vous raccompagner à la maison. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, ça a été l'année se termine, l'année 2021 se termine. On se retrouve l'année prochaine en 2022. Pour plus d'informations sur l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez nous contacter donc sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à news@commercialsecurity.ca. Également, on a 514-448-4041, poste 6788. pour former vos commentaires. Finalement, donc, le titre du reportage, c'est Police Academy, web documentaire, un reportage d'un certain Drago Cano. Et puis, donc, vous pouvez également le retrouver sur YouTube. Donc, Police Academy, web documentaire. Donc, à nouveau, joyeux Noël et bonne année. On se retrouve l'année prochaine, en 2022. Puis voilà, je vous souhaite le meilleur pour 2022.
Age 65 and over? Now's the time to make your appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
Good evening. It's 6 o'clock on Thursday, December 23rd, 2021. You're listening to Upstage, the show about theater on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca. I'm your host, Sarah DeA, recording from home yet again this pandemic December. I'm going to play for you again this evening A Christmas Carol, which we performed and recorded and edited last year. I hope you enjoy. Merry Christmas. Good evening. You are listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and CKUT.ca, the show about theater on the radio, covering everything in Montreal, from drama to musicals to comedy to burlesque. I'm your host, Sarah DeA. It's Christmas Eve and our final show of 2020. And tonight I present to you, as a treat, an audio drama that will be familiar to your ears, but with a local retro take. A Christmas Carol by Charles Dickens. The Campbell Playhouse radio show in the United States presented this evergreen classic on December 24th, 1939, 81 years ago.